national et international. Le dirigeant signal confier ce forum sous la protection que Dieu et que Dieu lui-même sera à l'œuvre. Aujourd'hui, l'église de l'Ivoire, le Seigneur d'Ivoire, le grand pape et docteur de l'Église, quand on parle de l'Ivoire maintenant, on pense à la réforme. La réforme, de ce que le chant, depuis, est resté le chant grégorien. Le chant grégorien. Il a fait beaucoup de choses, mais ce qui est resté, c'est le chant grégorien. Plus par exemple, on va célébrer le mystère de l'Église. En reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu tout ça.
Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, l'Esprit scrute le fond de toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes sait ce qu'il y a dans l'homme, sinon l'Esprit d'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît ce qu'il y a dans Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Or, ce n'est pas l'esprit du monde que nous avons reçu, mais l'esprit qui vient de Dieu. Et ainsi, nous avons conscience des dons que Dieu nous a accordés. Nous disons cela avec un langage que nous n'apprenons pas de la sagesse humaine, mais que nous apprenons de l'esprit. Nous comparons entre elles les réalités spirituelles. L'homme, par ses seules capacités, n'accueille pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Pour lui, ce n'est que folie, et il ne peut pas comprendre, car c'est par l'Esprit qu'on examine toutes choses. Celui qui est animé par l'Esprit soumet tout des hommes, mais lui, personne ne peut l'y soumettre. Car il est écrit, qui a connu la pensée du Seigneur et qui pourra l'instruire? Eh bien, nous avons la pensée du Christ. Parole du Seigneur. Le Seigneur est juste en toutes ses voies.
Le Seigneur est juste en toutes ses voies.
Le Seigneur est tendre à ses pitiés, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres.
Le Seigneur est juste en toutes ses voies.
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton nom et ils parleront de tes exploits.
Le Seigneur est juste en toutes ses voies.
Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne est un règne éternel, ton empire pour les âges des âges.
Le Seigneur est juste en tout ce qu'il croit.
Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tout ce qu'il donne et redresse tous les accablés. Alléluia, 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 alléluia,
alléluia, alléluia.
Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia.
Former les gens. Et avec Alec, tous les 10 mois,
À partir de l'octobre, on va reprendre la formation. Les thèmes, les principes de subsidiarité, les principes de dignité humaine, on fait des conférences, des débats et ça. Ça a commencé. Pour que les gars se forment. Sans formation, nous ne pouvons rien faire. Les cadres, les chrétiens doivent se former, doivent connaître par cœur la doctrine sociale de l'Église, doivent connaître les encycliques sociales. Et puis, renouveler le pape Léon XIII en 1890, jusqu'à maintenant, jusqu'aux encycliques de Léon XVI et du pape François. Nous faisons mémoire aujourd'hui de Saint Grégoire, le grand pape, le docteur de l'Église. Il naît en 1640 dans une famille chrétienne, après des études de droit. Grégoire entreprend une carrière politique et devient préfet de la cité de Rome. Cette expérience fait mûrir en lui un regard plus conscient sur la ville et ses problèmes, ainsi qu'un plus profond sens de l'ordre et de la discipline. L'ordre de la discipline, très nécessaire pour un équilibre humain. Peu d'années après, attiré par la vie monastique, il décide de renoncer à sa charge. Il donne ses biens aux pauvres et fait de la maison paternelle un monastère. Il dédie à Saint-André. Ici, il se consacre à la prière, au recueillement, à l'étude de la Sainte Écriture et des pères de l'Église. Après la mort du pape Pélage, en 1590, Grégoire est élu comme son successeur, il devient pape. C'est une période difficile que Grégoire doit affronter. Dans la vie de l'Église, il y en a qui sont appelés à affronter des périodes difficiles. Et Grégoire a fait une expérience. Invasion des Lombards, pluie diluvienne et inondation qui causent de nombreuses victimes et d'importants dégâts. Plusieurs régions de l'Italie sont frappées par la famine et la peste continue à moissonner de nombreuses victimes. Grégoire instaure les fidèles à la pénitence et à la prière en les invitant à prendre part pendant 3 jours à une solennelle procession pénitentiaire vers la basilique de Sainte-Marie Majeure. Ce qu'on a pu retenir de Grégoire entre autres, la réforme de la messe. Il rend la messe plus simple. Il promeut aussi le chant liturgique, appelé le chant grégorien. D'ailleurs, il y en a qui sont nostalgiques de ce chant grégorien. Il y a des paroisses, il y a des stades qui chassent. 13e communauté qui chassent, où les nostalgiques du chant grégorien ont maintenu leur messe en part. Et c'était un peu âgé. Ils ont maintenu leur messe en chant grégorien. Ça leur fait la nostalgie du Vatican I et d'autres. Dans l'évangile soumis à notre méditation ce matin, nous voyons Jésus, après avoir enseigné avec autorité, manifester avec puissance l'efficacité de sa parole. Et Jésus prêche avec autorité. Sa parole est une parole d'autorité. Il ne prêche pas comme l'esprit. Il est pharisien, non? Il sait ce qu'il fait. Il sait qu'il est l'envoyé de Dieu. Il sait qu'il est le Verbe incarné. Il sait dans ce don, il a pour prêcher. Nous le voyons, apostrophé par un homme, possédé par un esprit impur, qui l'appelle le Saint-Esprit. Voilà un esprit impur qui découvre Jésus. Les esprits impurs le reconnaissent en Jésus, le Saint-Dieu. Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Jésus menace l'esprit mauvais et lui dit de se taire et de sortir. L'homme tombe à terre. Mais il est libéré. Mais parfois, nous sommes ceux qui sont venus à ce temps-là. Nous avons besoin d'être libérés de beaucoup de choses qui retiennent notre cœur. Notre cœur est parfois retenu par beaucoup de choses. Et ça rend notre vie lourde. Ça rend notre vie apte. À donner sa vie à Dieu. Nous ne sommes pas seulement aptes à donner nos vies à Dieu. Nous sommes pas seulement aptes à donner un sens. La question du sens abordée par les philosophes et les théologiens. Question du sens. Quel est le sens de ta vie? Est-ce que ta vie a un sens? Ou tu vis seulement au hasard? Il y en a qui doivent vivre au hasard. Il doit donner un sens à ta vie, un sens à ton existence. Et Dieu t'aide, justement, Dieu t'aide à donner un sens à ton existence. Non, toi, ma terre, mais il est libéré. Nous faisons parfois, il nous arrive de tomber à terre. Et de ne pas pouvoir se libérer, de vouloir demeurer. On se rend demeurer pour vivre. conjonction de cette religion à se libérer, à être des hommes libres, debout, et qui prennent en charge leur vie, et qui prennent aussi en charge leur vie de foi. Pas des chrétiens tièdes, pas des chrétiens qui vivent dans la somnolence, pas des chrétiens timorés, et des chrétiens debout, dynamiques, et parce qu'ils savent que c'est Dieu qui est le vrai protagoniste. La question qu'on se pose, c'est de savoir pourquoi Jésus fait taire l'esprit impur, alors que le but des évangiles est de faire connaître son identité propre, l'identité propre de Jésus. Jésus ne reste-t-il donc pas à croire de la connaître? Cette question n'est pas négligée, car il pourrait bien être pour nous une invitation à nous remettre en cause. C'est ce que nous remettons en cause, ne peut jamais changer. Quand on est toujours à justifier, la question soit à justifier. Puisque tu te justifies, puisque tu n'acceptes pas tes torts, puisque tu ne te remets pas en cause, et tu continues à vivre comme ça, tu te remets en cause, c'est une première étape de la conversion, d'un changement radical. Et nous avons besoin d'être bousculés par l'évangile. L'évangile doit nous faire sortir de nos torpeurs, de nos assurances, et nous bousculer vers l'inconnu qu'on n'a pas vu. Parfois, on composait avec l'inconnu. L'inconnu, là, c'est Jésus. Qui te fait passer des chemins que tu n'as pas prévu. Et parfois, vivre dans l'étonnement est étonné. C'est lui qui ne s'étonne jamais. C'est lui qui ne vit jamais. La surprise dans sa vie, il ne peut pas accepter Dieu. Accepter la surprise de Dieu dans ta vie. Jésus impose le silence. En effet, c'est lui qui suppose savoir tout de lui et qui n'a rien à apprendre de nouveau. Cet évangile, mes frères et sœurs, est une bonne occasion de prendre mieux conscience de la nature de notre dialogue intime avec notre Sauveur et de la façon dont nous parlons de lui. Comment nous parlons de Jésus? Quelle image nous avons de Jésus? Est-ce une image d'un Dieu pur, sévère? Est-ce une image d'un Dieu compatissant, plein d'amour? Nous contentons-nous de quelques déclamations dogmatiques et rassurantes, mais un peu confuses dans nos esprits. Nous réfugions-nous dans les prétendues sécurités de notre catéchèse, il y a longtemps. Ou bien essayons-nous de ne connaître cette vérité dans notre quotidien, de voir comment elle se dévoile peu à peu d'une façon originale qui caractérise notre relation unique avec le Seigneur. Autrement dit, sommes-nous encore capables d'être étonnés par le Seigneur? Ou bien rendons-nous comme un vieux couple qui n'aurait plus rien à se dire? Nous interprétons sur la vérité de notre relation à Dieu. Elle est une invitation davantage de formation pour arriver à Dieu de façon juste. Notre amour et en même temps l'attention finale aux événements du quotidien où le Seigneur dévoile son amour préliminaire. Une invitation, frères et sœurs, à nous tuer à l'esprit qui régénère toutes choses égale notre relation à Dieu dans la jeunesse de notre monde. Prions le Seigneur. Le Seigneur qui nous attend toujours, qui nous convoque toujours, parfois nous croyons, nous voyons.